Chers auditeurs, le conflit actuel en Ukraine est le plus impactant pour nous, Européens, car il a détruit les bonnes relations, surtout commerciales, avec la Fédération de Russie. Ce conflit amorce aussi la fin du règne occidental absolu sur le reste du monde et montre les limites d'une fuite en avant qui risque, dans le cas présent, de se terminer en désastre militaire, politique et économique. Les médias donnent rarement la parole à ceux qui expliquent une autre réalité que celle exprimée par des médias dominants répétant la version voulue par l'OTAN. Le conflit en Ukraine est la bataille finale d'un impérialisme arrogant prêt à mettre l'Europe à feu et à sang pour nuire à la Russie. Le principal rival historique d'une élite européenne encore au pouvoir est directement issu de familles qui, à l'époque, ont propulsé le Troisième Reich, richement représenté parmi les membres fondateurs d'institutions comme l'OTAN, l'ONU, le WEF et même l'Union européenne. La peste brune porte aujourd'hui comme hier des costards et des cravates et elle ne se limite pas à quelques néo-nazis tatoués. Pour donner la parole à une de ces voix trop peu entendues, nous avons le plaisir de vous proposer un entretien réalisé en mai par nos collègues de Swissbox Conversation avec Jacques Beau, ancien colonel d'état-major général suisse, ex-membre du renseignement stratégique spécialiste des pays de l'Est. Un contenu très riche de passer 3 heures qui valent le détour et que nous avons découpé pour vous en 6 épisodes d'une trentaine de minutes chacun, plus pratique à écouter. Vous allez écouter le 2e épisode de cette série. Retrouvez tous les épisodes en cherchant le numéro 16202 sur le site radiolibre.ch. Bonne écoute.
Vous écoutez Radio Libre.
Les Européens là-dedans, les Européens, ils ont simplement suivi. Ils ont fait exactement ce que leur ont dit les Américains. Pourquoi, comment, j'ai encore beaucoup de peine. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très émotionnels dans cette affaire. Ce qu'il faut comprendre aussi, j'ai travaillé 5 ans à l'OTAN et j'ai constaté que dans l'OTAN, je ne connais pas l'Union européenne, mais, enfin, je ne connais pas l'Union européenne intimement, de l'intérieur. Mais je peux m'imaginer qu'on a le même phénomène. Dans l'OTAN, on a exactement ce que Donald Rumsfeld avait décrit en 2003-2004. Il avait dit il y a une vieille Europe, c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, ça c'est la vieille Europe, celle du marché commun, et la nouvelle Europe, qui est l'Europe orientale. Et cette nouvelle Europe, effectivement, dans l'OTAN, alors qu'elle ne représente pas grand-chose économiquement, hein, parce que si vous regardez d'ailleurs, si on regarde la répartition de qui reçoit et donne de l'argent dans l'Europe, on voit que c'est la vieille Europe qui paye pour la nouvelle, en réalité, globalement. Hein. Tous ces pays d'Europe orientale sont très faibles économiquement. Mais au niveau de l'influence, ils ont une influence absolument incroyable. Pourquoi ? Parce qu'ils sont farouchement anti-russes et donc farouchement pro-américains. Mais vraiment farouchement.
C'est la Pologne, par exemple.
Voilà, la Pologne est un exemple, et les pays baltes, alors, voilà. Vous prenez d'ailleurs, c'est la même, en gros, c'est aussi la même histoire pour beaucoup, hein. Pas oublier que la Pologne et la Lituanie ont formé un État ensemble pendant très longtemps. C'est d'ailleurs un des objectifs de la politique étrangère polonaise, c'est de reconstituer ce pays. Ça, c'est assez fascinant d'ailleurs de voir que la Pologne fait partie de l'Union européenne et rêve d'une Europe, mais qui n'est pas du tout l'Union européenne. Bon, mais bref, c'est un autre sujet. Et donc, on a dans cette Europe, à la fois l'Europe et l'OTAN, on a cette Europe orientale qui est extrêmement, extrêmement virulente, qui est très bruyante et qui est bruyante parce qu'elle a le soutien des États-Unis. Et donc, il y a chez eux un intérêt à ne plus avoir de Russie, mais c'est un intérêt qui est plus historique, plus psychique que réel, parce qu'en réalité, ils ont des relations économiques traditionnelles avec la Russie, il n'y a pas vraiment eu de friction, à part le fait qu'ils ont des ressortissants ex-soviétiques dans leur territoire, qu'ils traitent très mal d'ailleurs, parce que c'est des anciens soviétiques, c'est des anciens occupants. Donc on les traite comme des anciens occupants, littéralement. Et ça, c'est les seuls points de friction. Mais en réalité, sinon, c'est des pays qui avaient beaucoup à faire pour s'entendre. D'ailleurs, moi qui ai une famille d'origine française, je remarque que les Français sont très bien raccommodés avec les Allemands. Donc, j'ai de la peine à comprendre que ça ne puisse pas être la même chose entre les Polonais et les Russes, ou les Lettons et les Russes. Parce que Finalement, on a des rivalités qui datent du début du XXe siècle et sur lesquelles on pourrait passer facilement. Mais ça n'est pas du tout le cas. Les gens qui ont gardé une rancœur extrêmement robuste, et ça fait le beurre des Américains. Donc, si vous voulez, ces gens vont servir les intérêts des Américains. Et c'est exactement ce qu'on voit avec von der Leyen, etc. Quand vous regardez les gens qui conseillent von der Leyen, vous retrouvez partout systématiquement des gens des pays baltes. Extrêmement puissants. Ils ont un lobby extrêmement puissant. Et donc, voilà l'intérêt. Maintenant, les Russes, eux, et c'est important de le dire, les Russes ont un problème avec les États-Unis plus qu'avec l'OTAN. On dit toujours, c'est parce que l'OTAN s'est approché, que Poutine ne veut pas... Non, c'est certainement que la Russie n'est pas très confortable à voir un OTAN qui touche ses frontières. Mais ce n'est pas nouveau. La Turquie touchait déjà l'Union soviétique pendant la guerre froide. C'est la raison pour laquelle on a fait entrer la Turquie dans l'OTAN, d'ailleurs. Enfin, c'était le seul pays à peu près occidental qui jouxtait l'Union soviétique. Et donc, il y avait ce problème-là. Ensuite, quand au début des années, plutôt milieu, fin des années 90 ou 90, lorsque les pays baltes sont entrés dans l'OTAN, ça n'a pas suscité de réaction chez les Russes. J'ai dit, OK, pas de problème. Ça ne les dérangeait pas. Ce n'est pas l'OTAN qui les dérange. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tout d'un coup l'OTAN a changé? C'est parce que tout simplement les Américains, à partir du début des années 2000, ont abandonné tous les traités de désarmement qui avaient été signés pendant la guerre froide, notamment sur les armements nucléaires. Et progressivement, à partir de 2002, on voit que les Américains se retirent de tous ces traités. Alors ça, en soi, c'est pas trop un problème. Mais là où ça devient un problème, c'est que les Américains sont retirés de ces traités de façon à pouvoir installer des missiles en Pologne et en Roumanie. Alors officiellement, c'est des missiles antibalistiques, c'est-à-dire des missiles de défense antiaérienne, antimissiles. Sauf que les systèmes qui sont déployés là sont des systèmes duo, c'est-à-dire duo dans le sens DAUX, bien sûr, c'est-à-dire des systèmes qui peuvent à la fois tirer des missiles antibalistiques et à la fois des missiles balistiques nucléaires. Et ça, c'est à la porte de la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un missile décolle de ces bases qui sont à bout touchant, la Russie n'a plus le temps de mettre en alerte ses unités de défense antimissile. C'est ça le problème. C'est ça. C'est pas tellement la présence de l'OTAN, plus que la présence de ces missiles américains. Et ça, c'est un problème. Mais
militaire, du coup.
C'est un problème militaire, stratégique, etc. Mais ça, c'est un problème que les Russes ont toujours considéré comme étant un problème qui devait se régler diplomatiquement. C'est un sujet de contentieux qui existe entre la Russie et les États-Unis, et l'OTAN par la force des choses, mais ça n'est pas la raison pour laquelle les Russes sont intervenus en Ukraine. La raison pour laquelle les Russes ont intervenu en Ukraine, c'est parce que la population russophone du Donbass était maltraitée par les...
Voilà. On a beaucoup détaillé.
Voilà, on avait détaillé. Ouais. Donc, on ne va pas entrer dans tous les détails une nouvelle fois là-dedans. Il y a peut-être deux choses qu'il faut rappeler, parce que ça, c'est des choses qui échappent totalement à nos médias. C'est la publication au 1er juillet 2021 de la loi sur les peuples autochtones d'Ukraine, qui définit des droits différents selon l'origine ethnique des gens. C'est les mêmes lois que les Allemands avaient adoptées en 1935 contre les Juifs. Les mêmes lois. C'est-à-dire qu'on applique la loi non plus en fonction de ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, on applique la loi en fonction de ce que vous êtes. Voilà. Et ça, c'est effectivement ce qui s'est passé. Et vous avez d'ailleurs des politiciens ukrainiens qui ont dit, ben voilà, c'est très bien depuis que cette loi, les Russes sont des citoyens de deuxième catégorie, ils n'ont pas droit à tous les droits auxquels ont droit les Ukrainiens, etc. etc.
Voilà. Y compris de parler leur langue.
Pardon ?
Y compris le droit de parler leur langue.
Alors, la langue, ça, de toute façon... Non, alors, attends, il faut être tout à fait rigoureux. Il faut être très clair. On n'a jamais interdit aux Russes de parler leur langue. C'est pas vrai. Dans ces dernières semaines, on a entendu en Ukraine des gens déclarer ça. Et même... Il y a eu l'année passée encore des séances d'élimination des livres russes, des bibliothèques, etc. Ça, oui. Mais avant ça, on parle d'avant 2022, avant février. Non, il n'y avait pas d'interdiction de parler la langue russe. Mais il y avait... La langue russe n'était plus une langue officielle. C'est comme si en Suisse, on disait le français n'est plus une langue officielle.
C'est-à-dire plus enseigné...
C'est-à-dire qu'elle n'est plus, elle fait plus partie des langues qu'on peut utiliser entre le citoyen et l'État, typiquement. C'est ça. Vous pouvez toujours la parler en famille, bien entendu. C'est pas interdit. Mais en revanche, l'État, quand il va vous donner vos déclarations d'impôts ou des choses comme ça, ou émettre des lois, il va pas le faire en russe. Il va le faire uniquement en ukrainien, parce que c'est la langue officielle. Mmh. Voilà. Alors qu'autrefois, notamment à partir de 2012. Où il y a eu une loi Kivalov, Kalichnichenko, enfin c'est un nom assez compliqué, mais bref. Il y avait une loi qui mettait à égalité le russe et l'ukrainien. C'est-à-dire que quand on émet une loi, quand on a des discussions au Parlement, eh bien ça peut se faire dans les deux langues, tout à fait normalement. Mais là, à partir de 2014, quand il y a eu le coup d'État de Maïdan, au lendemain du coup d'État, Yanukovych ayant été évincé, le 23 février, il a été décidé que le russe n'était plus une langue officielle. Et c'est ça qui a déclenché, d'ailleurs, tous les mouvements de contestation et carrément des mouvements de révolte dans tout le sud du pays. Pas seulement dans les deux républiques de Lugansk, partout, à Odessa, à Kharkov, à Dniepropetrovsk, à Lugansk, à Mariupol, partout, partout. Tout le sud s'est enflammé d'un seul coup. Et donc, on a cette situation-là, mais ça c'était la situation des langues, c'est en 2014. En 2021, il y a cette loi sur les peuples indigènes qui, officiellement, dépouille les citoyens russes, c'est les citoyens ukrainiens russophones de leurs droits. À cause de certains droits, pas de tous.
Quels droits, par exemple ?
Oh, je ne les ai pas en tête maintenant. Mais il y a certains droits pour lesquels auxquels ils n'ont plus ou ils n'y ont pas accès de la même manière que les autres. Ce qui est en soi quelque chose qui est, dans nos démocraties, à peu près impensable. Mais bref, c'est comme ça. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis, il y a la deuxième chose qu'on n'évoque pas du tout dans nos médias, c'est qu'en mars 2021, toujours en 2021, c'est-à-dire quelques mois avant la promulgation de cette loi, Zelensky a promulgué une loi pour la reconquête de la Crimée et du sud de l'Ukraine, donc les républiques de Donbass. Et à partir d'avril, enfin fin mars, début avril 2021, les Ukrainiens commencent à déployer un dispositif dans la région du Donbass. Et c'est pour cette raison que les Russes déploient de leur côté, commencent à déployer des forces, parce qu'ils savent qu'il va y avoir une intervention, parce que cette intervention, elle est finalement annoncée dans la loi de Zelensky. Cette loi du 24 mars 2021. Donc, tout ça, on le savait, et finalement, ce qui s'est passé au début 2022, finalement, cette montée en tension a fait que les Russes ont dit maintenant, soit on attend que les choses se passent et on réagit, soit on prend les devants et puis on intervient avant que... Voilà, c'est ça qui s'est passé. Mmh. Et je pense que si on met bout à bout ce qu'a dit Arestovitch, les phénomènes qu'on a observés en 2021 et qu'on voit la manière dont les Américains, notamment Joe Biden, a commenté les événements en Ukraine au début, enfin fin janvier, début février 2022, on peut en tirer la conclusion sans vraiment tirer par les cheveux que les Américains s'attendaient. À vrai dire, on voulait que les Russes attaquent. Ah, on voulait. C'est ça. C'est le but de l'opération. C'était que les Russes attaquent. De façon à ce qu'on puisse lui appliquer des sanctions. Et là, les deux intérêts de l'Ukraine et des États-Unis se rencontraient. Les Ukrainiens, grâce à ces sanctions qui faisaient s'effondrer la Russie, les Ukrainiens accédaient à l'OTAN. Et les Américains, ils éliminaient un concurrent. Voilà. C'était ça, le calcul. Et tout ça devait se passer en quelques jours. Et c'est pour ça, de nouveau, les sanctions massives devaient avoir cet effet-là. Le problème est que Vladimir Poutine, en consolidant son économie ou l'économie, l'a rendue résiliente aux sanctions, tout simplement. Et on a vu que les sanctions, elles ont eu des effets temporaires, parce que c'est arrivé d'un coup, donc on a eu une chute temporaire du rouble, mais qui a duré quoi, 24 heures, même pas. Après, c'est remonté, le rouble s'est renforcé. Après, Poutine a décidé de vendre le gaz et les produits pétroliers en rouble, ce qui a renforcé la demande pour le rouble et donc qui a réévalué d'une certaine manière la valeur du rouble. Et c'est pour ça que le rouble s'est consolidé et c'était une manœuvre d'ailleurs assez géniale. Je pense que les Américains n'avaient pas prévu ça parce que c'est ce qui a fait que l'économie russe est restée à flot. Et comme c'est une économie qui avait déjà été partiellement mise sous sanction en 2014 après l'affaire de Maïdan, eh bien, elle était déjà en partie déconnectée des Occidentaux, notamment pour les trafics financiers. Donc, quand on l'a déconnectée complètement de SWIFT, qui est le mécanisme qui sert à régler les paiements entre interbancaires, eh bien, finalement, ça n'a pratiquement pas touché l'économie russe. Donc, il y a eu un flottement, il y a eu un élément d'inflation qui d'ailleurs se résorbe à une vitesse grand V, contrairement à l'Occident, parce que l'Occident a, à l'inverse, une inflation qui n'est pas simplement conjoncturelle, mais qui commence à devenir structurelle parce que les matières premières dont elle a besoin se raréfient. Et donc, ça a une tendance à créer une poussée inflationniste par le fait que le gaz coûte plus cher, le pétrole coûte plus cher, etc. Bref. Et donc, actuellement, ce qu'on observe, c'est d'ailleurs le Fonds monétaire international a fait une étude sur les économies, ils ont dit en 2024, la croissance en Russie sera plus forte que dans la zone euro. Tout simplement. Et donc, on a ce phénomène. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que on est parti dans ce conflit avec l'idée qu'il serait très court et que la Russie s'effondrerait immédiatement.
Mais il n'y a pas eu un moment, de ma compréhension aussi, un peu une peur quand la Russie envahit. Les gens pensaient que Kiev allait tomber en quelques jours.
Ça, c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose.
C'est pas un peu paradoxal alors de penser que d'un côté, ça pourrait finir en quelques jours parce que la Russie aurait une victoire écrasante. Ouais, tu peux remonter, je crois que tu es un peu descendu sur ta chaise. Et l'autre côté. Et puis finalement, moi ça descend un peu, hein, toujours, il faut que j'investisse dans des chaises. et puis finalement, en fait, la Russie pensait que ça allait être court parce qu'elle pensait que l'Ukraine allait négocier très rapidement. Mais là, l'Occident, les États-Unis, je crois comprendre qu'ils ont eu peur quand même que ça se finisse très vite.
Non.
Et puis qu'après, comme ça n'a pas marché, ils considèrent que la Russie était faible. Parce qu'elle a dû reculer, lâcher du territoire, et puis c'est à ce moment-là où ils se sont dit, mais en fait, on peut peut-être gagner.
Non.
Non.
D'abord, chez les gens qui ont fait une analyse sérieuse du champ de bataille, les Russes n'ont jamais, jamais déployé suffisamment de troupes pour s'emparer de Kiev. Et ça, le Pentagone le savait pertinemment, parce que, d'ailleurs, j'ai mis dans mon ouvrage Opération Z les chiffres publié par le Pentagone. Il y avait à peu près 20 000 hommes autour de Kiev à ce moment-là. Alors, pour donner une idée, pour prendre Berlin, qui est une taille qui était à peu près comparable en 1945, qui était défendue par 40 000, 45 000 Allemands. Bon, c'était des SS français d'ailleurs en partie, assez curieusement. Mais 45 000 défendeurs de Berlin, les Russes ont attaqué avec 1,5 million d'hommes. 1945. Et là, à Kiev, il y avait un minimum de 60 000 hommes fixes, sans parler des milices, etc. Donc, et prendre une ville de la taille de Kiev, avec 20 000 hommes, c'est à peu près impensable. D'ailleurs, pour prendre Mariupol, qui est considérablement plus petite que Kiev, les Russes ont utilisé près de 40 000 ou 60 000 hommes.
Okay, donc les Américains n'ont jamais eu peur que Kiev
tombe. On n'a jamais eu peur que Kiev soit pris. Ça, on est dans le discours politique, mais dans le discours de l'analyse militaire, les Russes n'ont jamais déployé ce qu'il fallait pour prendre la ville de Kiev. Jamais. Et ils l'ont très bien expliqué, d'ailleurs. Ils ont expliqué que le but, c'était pas ni de forcer... D'être autour de Kiev n'était même pas de forcer les Ukrainiens à la négociation, ni même de menacer, de faire tomber le pouvoir, etc. Pas du tout. La raison pour laquelle il y avait ces troupes près de Kiev, c'était pour empêcher que l'armée ukrainienne renforce ses troupes dans le Donbass. Parce que, décemment... On ne pouvait pas aller renforcer des troupes dans le Donbass avec une menace sur Kiev. Donc, c'est techniquement, en termes militaires, ça s'appelle fixer l'ennemi, c'est-à-dire qu'on se met là pour contraindre l'adversaire, en l'occurrence les Ukrainiens, à rester autour de Kiev pour parer à une éventuelle attaque de la ville et empêcher qu'ils aillent renforcer les troupes dans le Donbass. Parce qu'il faut savoir que lorsque les Russes ont attaqué l'Ukraine, ils l'ont attaqué avec un rapport défavorable de 1 à 3. Donc ils se sont battus à 1 contre 3. Et ça, en général, quand on attaque, on est plutôt à 3 contre 1. Mmh. Or là, ils sont allés à 1 contre 3. Et ça veut dire que pour avoir des chances de succès, ils devaient empêcher les Ukrainiens de concentrer leurs forces. Ce 3 contre 1, c'est toute l'armée ukrainienne. Mais si une partie de ce 3 se trouvait à l'ouest et que le reste se trouvait à l'est, c'était ce que cherchaient à faire les Russes. Simplement, on n'a jamais voulu comprendre toute cette mécanique. C'est ce qu'on appelle, en termes militaires, c'est ce que les Russes appellent « operativne uskustvo ». C'est l'art opératif. C'est justement où on arrive à compenser une faiblesse grâce à la manœuvre.
Voilà. Mm-hmm. C'est ça. Ouais. T'as parlé des États-Unis, de l'Ukraine, des pays européens, de la Nouvelle Europe, mais t'as pas tellement évoqué l'Allemagne ni la France, qui sont l'Europe, sinon il n'y aurait pas d'Europe à mon sens, et qui eux non plus ne parlent pas réellement de paix. Alors il y a récemment Macron qui joue des tours de manche en disant il va falloir que l'Europe s'autonomise de la mainmise américaine, mais ça c'est du complet blabla, parce que dans les faits, dans les actes, il n'y a absolument rien du tout. Alors, est-ce qu'on peut dire que le fait que ces grands pays ne parlent pas de paix, à mon avis, contre leurs propres intérêts, c'est parce qu'ils sont de simples vassaux des États-Unis ? C'est aussi simple que ça ?
C'est un peu simple d'utiliser le mot vassal, etc. Mais bref, c'est vrai que suiveur, c'est certain. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est la chose suivante. Et d'ailleurs, c'est un peu la même explication qu'on a par rapport à la Suisse et l'abandon, entre guillemets, de neutralité de la Suisse. C'est que le problème des États-Unis, c'est que, ou le problème avec les États-Unis, c'est que c'est un pays qui est tellement puissant qui peut littéralement ruiner ton économie si tu n'es pas avec lui. Et les Américains ne se sont pas privés de mettre des sanctions contre des alliés. Nord Stream, avant qu'il soit détruit, je parle des années 2019, 2020, 2021, pendant encore sous l'ère Trump, ils ont mis des sanctions. Ils ne voulaient pas que ce truc soit construit, donc ils ont tout simplement mis des sanctions aux Allemands, mm-hmm. qui sont leurs alliés, et pratiquement un des principaux alliés en termes de capacité. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on a tous ces pays d'Afrique, ce qu'on appelle le reste du monde aujourd'hui, qui tendent à se regrouper autour des BRICS ou de la Chine, de la Russie, etc., et de l'Inde, parce que ces gens constatent que les Américains, en fait, par leur capacité économique, qui est encore très forte, eh bien, ils arrivent à imposer leur loi, parce qu'il suffit qu'ils décident, maintenant vous êtes sous sanction, et c'est fini, l'économie, elle s'effondre. Et c'est une sorte de comportement mafieux, quelque part, C'est le parrain hein, qui dit « Je vous protège, mais à condition que vous fassiez ce que je veux. Mmh. » Et si vous ne faites plus, ben, sanction terminée, tu fermes boutique. Mmh.
Mais il y a des signes quand même qui montrent que c'est moins en moins facile pour les États-Unis, avec notamment ces pays qui utilisent autre chose que le dollar pour...
Alors maintenant, c'est pour ça que d'abord, les gens ont commencé à se débarrasser, enfin ces pays ont commencé à se débarrasser de leur dollar, parce que c'est le dollar qui crée cette vulnérabilité, d'une certaine manière. Mais en se débarrassant du dollar, ils ont créé une faiblesse pour les États-Unis, parce que moins il y a de dollars en circulation, plus la dette... américaine s'alourdit d'une certaine manière. On peut entrer dans tous les détails ici, c'est l'affaire du pétrodollar en grande partie, pas seulement, mais en grande partie. Et donc, les Américains ont compris que ce qui fait leur force et leur capacité à, comment dire, à faire pression sur les autres, typiquement c'est le dollar, est aussi une faiblesse. Parce que si tout d'un coup, tout le monde, à une époque où tout le monde avait besoin de pétrole et avait besoin de dollars pour acheter du pétrole, si tout d'un coup les gens disent « Oh ben non, maintenant j'achète plus en dollars parce que c'est trop risqué, je préfère payer ça en rouble ou en yuan », alors on a effectivement, ça devient la faiblesse des États-Unis. Voilà. Et c'est ce qu'ils commencent à avoir, d'ailleurs.
Oui, oui. Sur le plan médiatique et politique, on le voit aussi, notamment avec la Chine qui arrive à faire cesser en partie la guerre au Yémen, à rassembler l'Arabie Saoudite avec l'Iran. Ouais. Donc là, effectivement, c'est même les Américains ont dit « on n'a pas vu ça venir ». Mais je trouve ça intéressant parce que ça sous-entendrait que les Américains, en fait, ouvertement créent la guerre partout. Puis tout d'un coup, ils n'ont pas vu venir qu'on pouvait faire la paix. C'est quand même révélateur.
Oui, c'est tout à fait révélateur. Et ça montre d'ailleurs que on est exactement au cœur de la doctrine Wolfowitz. C'est des gens qui ont tellement le sentiment d'être puissants qu'ils n'arrivent même pas à imaginer que quelqu'un puisse aller contre eux. C'est impensable. Et quand il ne faut pas oublier, par exemple, pour l'Arabie Saoudite, c'est quand même Joe Biden qui a dit « Nous allons faire un État paria ». Alors, quand vous êtes dirigeant de l'Arabie Saoudite puis que vous voyez que votre partenaire a décidé que vous serez un État paria, c'est pas très encourageant pour le restant des relations. Donc, le gars dit, ben, moi, pourquoi est-ce que je... Ben, l'Iran, si vous regardez au Moyen-Orient, depuis le 18e siècle, l'Iran n'a jamais été une menace pour personne au Moyen-Orient. Pour personne. C'est un pays qui a jamais essayé de s'étendre, qui a toujours essayé de garder des bonnes relations avec les uns et les autres. Le problème est venu lorsque les Israéliens ont envahi le Liban et puis qu'ils sont trouvés face au Hezbollah, qui sont aussi des chiites et qui ont été aidés par l'Iran. Mais si les Israéliens n'étaient pas allés au Liban, il n'y aurait pas eu de Hezbollah. Le Hezbollah a été créé pour répondre à la présence israélienne, pas pour autre chose. Donc là, il fallait s'en prendre qu'à soi-même, ce que les Israéliens sont incapables de faire. Ils sont incapables culturellement de le faire et incapables politiquement de le faire. Et c'est la raison pour laquelle, par voie de conséquence, ils ont fait de l'Iran leur premier ennemi. Mais l'Iran, Israël, historiquement, les relations entre Israël et l'Iran sont très bonnes, historiquement. C'est uniquement depuis la naissance du Hezbollah en 1985 qu'on a des tensions entre les chiites et Israël et ça qui a débordé sur un affrontement, enfin une rivalité politique entre Israël et l'Iran. Mais l'Iran, à vrai dire, n'est pas du tout spécialement opposé à Israël en tant que tel. Ils n'ont pas de frontières communes, il n'y a pas de contentieux territorial, il n'y a pas de raison d'être en conflit du point de vue de l'Iran.
Mais est-ce que tu crois que les États-Unis vont quand même garder cette influence sur la France ou l'Allemagne ?
Alors, pour revenir justement à ta question... Les Américains, ils sont pris dans leur piège. On parle d'ailleurs du piège de Thucydide. C'est le piège de la superpuissance qui ne peut pas se payer le luxe d'abandonner sa place de sa première place. Voilà. Pour différentes raisons, à la fois de prestige, de tout ce qu'on veut, c'est une puissance qui ne peut pas abandonner sa première place. Et donc, ils sont un peu contraints à fuir en avant, d'une certaine manière. Et c'est la raison pour laquelle les Américains n'accepteront pas, comme ils n'ont jamais accepté que l'Europe fasse, par exemple, ce que Macron avait déjà proposé, ce n'est pas nouveau, une Europe de la défense. D'ailleurs, c'est même inscrit dans la Constitution européenne d'avoir une Europe de la défense.
Ouais. Mais comme ils n'acceptent pas non plus, c'est là où j'avais évoqué Fillon tout à l'heure, la vidéo d'il y a deux jours, où il dit que quand ils ont créé l'euro, il avait proposé aux responsables allemands de réfléchir, de faire un groupe de travail pour faire que cette monnaie devienne une monnaie d'échange international. Et les Allemands, ils ont dit non, non, pas du tout, on va pas faire ça, on peut pas faire ça. Et on sait bien pourquoi. C'est parce que sinon, ça aurait été une compétition pour les États-Unis qui tiennent le bâton.
Alors, le problème des Allemands, ils ont, on l'a vu déjà, tout ça n'est pas nouveau. En 2003, quand il y a eu les Américains voulaient s'attaquer à l'Irak et que les Français sont montés au créneau, on se rappelle du discours de Villepin au Conseil de sécurité avec les grands principes, etc.
Et les Freedom Fries, du coup.
Après, les Freedom Fries, enfin, les French Fries sont devenus des Freedom Fries. Les Français sont montés au créneau. Les Allemands étaient en réalité d'accord avec les Français, mais ils ne sont pas montés au créneau. Les Allemands ont un complexe, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils ont un complexe qu'ils n'arrivent pas à surmonter, qui est qu'ils ont été vaincus, les Américains ont été les plus forts, et puis ils n'ont aucune intention de venir...
Les Américains ou les Russes ?
C'est-à-dire que les Américains... Comment dire, les Russes, ils en ont peur. Les Américains, ils en ont pas peur parce que c'est des amis, mais ils ont peur de la réaction. Les Américains peuvent faire plus de dégâts que les Russes aujourd'hui. En fait, c'est ça. C'est ça. Dans le monde qu'on est aujourd'hui, ils savent que les Russes, à vrai dire, tout le monde sait que les Russes n'ont aucune intention de recréer l'Union soviétique et des trucs comme ça.
Oui, mais tu disais les Allemands étaient vaincus par les Américains, mais ils ont été vaincus par l'Union soviétique.
Non, je sais bien, je sais bien.
Mais ils n'en ont pas peur.
Ils n'en ont pas peur. C'est une affaire c'est un dossier qui est clos du côté russe. Vraiment un dossier qui est clos.
La Pologne demande des réparations, mais pas la Russie.
Par exemple. Les Américains sont encore une puissance occupante.
D'ailleurs, il y a des militaires américains en Allemagne, je crois.
Mais oui, c'est ça, justement, c'est ce que je dis. C'est encore une puissance occupante. Tous les autres pays sont retirés. La France, l'Angleterre, ça sont retirés. Mais en Allemagne, il y a toujours les bases américaines. Donc, les Américains, et je pense que c'est intéressant quand on parle avec des militaires allemands, ça j'ai vu à l'OTAN. Il y a une sorte de relation amour-haine par rapport aux Américains. Mm-hmm. C'est les vainqueurs. On sait qu'ils font des tas de conneries. Parce que les Allemands ne sont pas idiots. J'entends le Bundesnachrichtendienst, le service de renseignement stratégique allemand, est, de mon avis, le meilleur service de renseignement.
Tu le sais parce que tu as collaboré avec eux.
J'ai collaboré, c'est-à-dire que dans le cadre de mes fonctions, on a travaillé avec eux, les services suisses à l'époque, enfin je pense que maintenant c'est toujours comme ça d'ailleurs, travaillaient avec tous les pays, tous les services de renseignement occidentaux. Et avec les Allemands, il y avait des relations peut-être un peu plus prononcées parce que on parlait leur langue. Les Français, ils avaient aussi des relations avec les Allemands, mais ils ne parlent pas la même langue. Donc, c'est un peu différent. Nous, on parlait la même langue. Et puis, ça crée déjà au niveau personnel, les Allemands qu'on voyait régulièrement. Il y avait une relation très amicale qui s'est développée. On échangeait des informations sur les Soviétiques. Bref. Et c'est, je pense, quand on comparait à l'époque, mais je n'ai pas de raison de penser que ce soit différent aujourd'hui, quand on regardait les méthodes de travail de tous les services occidentaux, clairement, les Allemands sont toujours sortis du lot. Et c'est eux qui, quand on regarde a posteriori depuis ce qui s'est passé ces dernières années, les analyses qu'ils ont faites sur la situation du terrorisme, etc., on remarque qu'ils ont toujours la meilleure analyse, l'analyse la plus pertinente. Ils ont Ils ont énormément d'experts, ils ont énormément de gens, d'analystes, je veux dire. Ils ont énormément de gens qui sont extrêmement pointus et ils n'ont pas le côté idéologique qu'ont les Américains, ou même les Britanniques d'ailleurs. Et donc, ça leur donne un avantage. L'idéologie est un facteur qui nuit à l'analyse de renseignements. C'est très sympathique dans un magazine, un truc comme ça. Mais quand on est dans le professionnel du renseignement, l'idéologie, ça va mal avec le renseignement, à vrai dire. Parce que ça conduit à voir les choses de manière totalement erronée, bien souvent. Mmh. Et il faut donc une très grande discipline intellectuelle. Mais bref, pour revenir à ça, donc les Allemands, eux, sont des gens qui, je pense, savent très bien à quoi s'en tenir avec les Américains, qui ont accepté que les Américains étaient les maîtres du jeu. Et puis, ils ont dit, bon, on suit cette ligne-là, okay. Point barre. D'ailleurs, on le voit même aujourd'hui, alors que Nord Stream... Attends.
Ouais, alors ça, c'est une blague, quoi.
C'est assez amusant. Ouais. On connaît pas le fin mot de l'histoire à 100% parce que il y a du brouillard et des
Ouais, Seymour Hersh, il avait quand même fait du bon travail d'investigation.
Il a fait, oui, tout à fait. Non,
il a dit. Norvégien
mais après, on a commencé à acheter des leurres là-dessus. Oui, oui. Et puis,
d'abord, il y a eu un yacht ou un yacht de riches ukrainiens. Et puis maintenant, on a retrouvé finalement les Danois. On aurait vu un bateau russe.
Non. Alors, il faut savoir que même la version du yacht avec les Ukrainiens, il y a deux versions différentes qui sont sorties en même temps. Dans deux magazines différents d'ailleurs.
C'était pas assez
qui
bien coordonné.
C'était pas bien coordonné. Donc il y a une version du New York Times, je crois, ou Washington Post. Et puis en même temps, il y a une version qui a été donnée par un magazine allemand. Je sais plus si c'était Die Zeit ou Der Spiegel. Et puis les deux versions collaient pas. Donc après Seymour Hersh, on a essayé de trouver un narratif, mais il a été bâclé en quelque sorte. Donc déjà pour contrer le narratif, on est arrivé à deux trucs qui collaient pas. D'un côté, on parlait d'Ukrainien, de l'autre, on parlait de force spéciale, un truc privé ou un truc comme ça. Donc c'était c'est vraiment du. Et puis maintenant. Par-dessus ça, on vient maintenant en disant que oui, mais peut-être il y avait des bateaux russes. Alors, ça vient même pas de service officiel. Ça vient d'amateurs qui auraient...
Oui. J'ai vu une photo où, en gros, c'est une grosse photo avec quatre gros carrés. C'est des pixels énormes. Puis ils disent, ça, c'est un bateau russe. Enfin, alors, peut-être il y a d'autres images, mais je les ai pas vues. Mais ce qui est particulier, c'est que Seymour Hersh, c'est quelqu'un qui est un reporter qui est très connu, qui a eu de nombreux prix, qui a révélé des choses au Vietnam et plus tard dans les guerres qui ne font pas doute. Alors, pourquoi, là, a priori, on rejette dans bloc alors que, en fait, le gars a déjà fait un travail extraordinaire par le passé, quoi.
Oui, non, mais...
Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais de rejeter ça comme ça d'un revers de main, c'est suspicieux.
Bah, c'est-à-dire qu'il faut voir les enjeux. Ça veut dire que les pays de l'OTAN se tirent l'un contre l'autre. C'est ça que ça veut dire. Ce que dit Seymour Hersh, pour lequel je n'ai pas de raison particulière de mettre en doute ce qu'il a dit d'ailleurs. Et je pense qu'il a la bonne version personnellement, parce que connaissant le personnage, c'est un type qui a d'excellents relais au Pentagone et dans les services américains. Je pense sérieusement qu'il avait raison. Mais bref, je ne peux pas le démontrer. Donc, je lui fais crédit. Mais... Ce que ça veut dire.
Vous venez d'écouter le deuxième épisode de cette série de 6 sur l'Ukraine avec Jacques Beau, réalisé par The Swiss Box Conversation. Retrouvez les autres épisodes en cherchant le numéro 16202 sur le site radiolibre.ch.